Bonjour Emmanuel Faber.
Bonjour Dimitri.
Vous êtes l'ancien PDG de Danone que vous avez dirigé pendant une dizaine d'années avant d'en être évincé au printemps dernier. On en parlera tout à l'heure parce que ça a été un moment intéressant de l'histoire du capitalisme français. Et ça n'est d'ailleurs peut-être pas étranger à la raison de votre présence avec nous ce matin. 9 mois ont passé et vous avez été nommé hier officiellement à la tête de l'ISSB. C'est le Conseil international des normes extra-financières. C'est un nouvel organisme qui a été créé le mois dernier dans la foulée de la COP26. Alors peut-être pour commencer, toute question toute bête, mais qu'est-ce que l'ISSB, Emmanuel Faber, et surtout à quoi ça va servir ?
Merci. Je vais commencer par à quoi ça va servir. Ça va servir à reconnecter la finance mondiale avec les besoins économiques, écologiques et sociaux de notre époque. Et maintenant, qu'est-ce que c'est et comment ça marche ? La fondation IFRS met en place des normes depuis une trentaine d'années, issues des systèmes comptables, donc c'est de la comptabilité, qui sont en place depuis évidemment encore plus longtemps que ça. Et ces normes comptables sont réputées aujourd'hui ou comprises comme étant incomplètes dans la capacité à prendre en compte des enjeux importants d'aujourd'hui. Et donc, à la COP26, comme vous l'avez dit, à Glasgow, cette fondation qui travaille dans l'intérêt public et sous la supervision des autorités mondiales de régulation des marchés financiers, a annoncé la création de l'ISSB, ce Conseil international des normes extra-comptables. Pourquoi c'est important? Je vais prendre par exemple ces normes extra-comptables, on va parler de climat et on va parler de rentrer dans le logiciel de l'économie, dans le logiciel des normes avec lesquelles les acteurs des marchés financiers travaillent et décident. La norme, c'est le langage, hein, c'est le code source du logiciel des économies, des données climat. Quand, il y a 50 ans ou 70 ans, les normes comptables ont été mises en place et elles continuent à être affinées aujourd'hui, mais sont toujours dans le même modèle, on ne connaissait pas les enjeux climatiques. Or, aujourd'hui, le plus grand assureur du monde vous dit un monde à 4 degrés de plus, on ne sait pas l'assurer, il est inassurable. Ça dit quelque chose, c'est que l'assurance qui est l'un des fondements de nos systèmes économiques et de nos modes de vie n'existera plus si c'est le cas. Donc, travailler à éviter que ce soit le cas, c'est un enjeu fondamental pour nos sociétés. Un enjeu complémentaire, les banques centrales aujourd'hui ont rentré le risque climatique dans les données d'évaluation de la stabilité monétaire et donc de leur décision, de la façon dont elles refinancent et assurent la liquidité monétaire sur la planète. C'est pour dire que il y a un vrai besoin. Et que le but de cet organisme-là, de cette entité que j'aurai l'honneur de diriger, c'est de proposer des normes et de mettre en place des normes sur le climat, par exemple, avec un agenda court, hein, puisqu'on parle de une première norme sur le climat qui serait disponible à la fin de l'année prochaine, de façon à ce que on rentre ça véritablement dans le logiciel de l'économie et des marchés financiers mondiaux.
Si je dresse le tableau général, le réchauffement climatique est en train de s'accélérer, les impacts sur nos vies et sur l'économie vont être gigantesques. Il faut que les entreprises aujourd'hui introduisent le paramètre climat tout en haut de leurs priorités. Autrement, l'argent qu'elles gagnent aujourd'hui, elles ne pourront pas le générer demain. Et c'est la vie en général qui est menacée si on ne fait pas cela, si on n'impose pas ce nouveau logiciel aux entreprises. Vous pensez, Emmanuel Faber ?
En fait, ce que je voudrais dire, c'est qu'il ne s'agit pas de l'imposer. La plupart des grandes entreprises, et j'en connais beaucoup, et de leurs dirigeants, ont déjà ça en tête. La difficulté aujourd'hui, c'est que nous n'avons pas de langage commun pour le définir. Donc certaines organisations qui proposent des normes sont retenues par certaines entreprises, d'autres normes entre guillemets concurrentes, mais qui peuvent être tout à fait valides aussi, hein, sont choisies par d'autres entreprises, si bien que dans leur dialogue entre elles, d'une part, elles ne parlent pas le même langage, et dans leur dialogue avec les investisseurs, elles ne parlent pas le même langage. C'est pour ça qu'il est très important d'insérer un langage commun, comparable, fiable, pertinent, dans lequel tout le monde se reconnaît. On va faire des choix qui ne plairont peut-être pas à tout le monde, mais au moins, ça permettra de créer un langage commun qui lui permettra d'activer des vraies décisions, c'est-à-dire de l'allocation du capital. Quand on dit qu'on veut sortir du carbone de nos économies, il s'agira de repérer là où il est et avec des éléments clairs sur là où il est, les investisseurs pourront prendre des décisions. De grandes banques aujourd'hui choisissent de sortir de leur crédit, non plus de capital, mais en termes de crédit, quand elles prêtent un certain nombre de de secteurs ou d'augmenter le prix auquel elle prête parce qu'elle considère que ce sont des secteurs qui sont en risque. Le charbon, c'est un exemple. Avec, par exemple, on considère déjà aujourd'hui de très grandes banques, d'ailleurs françaises ou internationales, oui, considèrent qu'il y a un risque de crédit sur le charbon parce qu'on ne sait pas combien de temps les gouvernements, par exemple, autoriseront l'utilisation de mines de charbon. Donc, toutes ces questions-là vont être dotées d'un langage commun qui va permettre de véritablement prendre des décisions et du coup d'allouer du capital et de faire bouger les prix en bourse, ce qui du coup permettra aux dirigeants d'entreprise et à leur conseil d'administration de prendre des décisions éclairées avec leurs investisseurs.
Donc l'idée, si j'ai bien compris, de l'ISSB, c'est de créer une sorte de langage commun aux entreprises quand elles communiquent dans un langage compréhensible pour le commun des mortels leurs efforts pour lutter contre le réchauffement climatique. Est-ce que vous pensez que ça va mettre fin au greenwashing? Greenwashing, je rappelle, c'est les initiatives écologiques de façade, de communication, mais qui n'ont, derrière laquelle il n'y a pas forcément grand-chose. Et il faut bien le dire, beaucoup de Français pensent que les entreprises font un petit peu semblant d'être écologistes aujourd'hui, Emmanuel Faber.
Mais oui, le greenwashing, de nouveau, je l'ai dit, donc je ne vais pas me dédire là-dessus, le greenwashing paralyse tout le monde, c'est-à-dire qu'il encourage l'inaction. Il ne récompense tellement pas l'action, que vous fassiez ou que vous ne fassiez pas, finalement, ce qui compte, c'est ce que vous dites avec le greenwashing. Donc, il suffit de dépenser un peu plus d'argent et vous avez l'air plus, entre guillemets, vertueux qu'une autre entreprise. Et c'est grave de mon point de vue parce que ça ne raconte pas une forme de réalité et de vérité, mais c'est d'autant plus grave que, surtout, ça freine cette transition dont l'économie a absolument besoin. Donc, une des conséquences positives de la mise en place de ce langage commun, c'est que ça va réduire le bruit du greenwashing. Je pense qu'il en restera toujours, c'est inévitable, mais j'espère vraiment qu'en effet, on passera de discours à la mesure des faits qui sont derrière ces discours. Les discours ne me gênent pas, dès lors qu'ils sont accompagnés de faits qui pourront cette fois-ci être vérifiés, mais également évalués, et c'est le plus important, pour que, de nouveau, la finance alloue bien, sur du moyen et long terme, les besoins de l'économie. Aujourd'hui, elle reste très court-termiste, parce que elle n'a pas les moyens, elle craint elle aussi en fait, de se faire brûler au greenwashing et d'investir sur de l'argent qui n'est pas véritablement là.
Alors, je voudrais qu'on parle, Emmanuel.